C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM. Et aujourd'hui, nous recevons Bruno de Stabenrath. Bruno qui a une vie riche, qui est scénariste, comédien, musicien, auteur, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, a connu et même été l'ami de Xavier Dupont de Ligonnès. Il le raconte dans son dernier livre, L'ami impossible chez Gallimard, où il mène une enquête sur cet homme. Un livre bien écrit qui est clair et nous permet de comprendre cette affaire du Dupont de Ligonnès dont on entend beaucoup parler. Il est notre invité épatant aujourd'hui sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence. Notre invité dans Vivre FM, Vivre c'est épatant jusqu'à 13h45, Bruno de Stabenrath, scénariste, comédien, musicien et auteur de L'ami impossible chez Gallimard, où il enquête sur un ancien ami, Xavier Dupont de Ligonnès. Il est notre invité. Nous sommes accompagnés d'Oriane Martineau du magazine Épatant pour cette interview. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors Bruno, comment avez-vous vécu la découverte de la disparition de la famille Dupont de Ligonnès et les accusations de meurtre contre cet ancien ami ?
Oui, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence. C'est-à-dire que si demain Xavier se rend, on l'arrête, il faut pouvoir prouver sa culpabilité.
Oui.
On n'a pas l'arme du crime, on n'a pas de traces d'ADN sur la scène de crime, donc ça sera à Xavier d'avouer.
Et il n'y a pas eu de procès, puisqu'il
n'y a pas eu de procès. J'espère qu'il n'y aura pas de prescription, parce que ça ce serait terrible. La seule bonne nouvelle qui est arrivée dernièrement, c'est que moi j'avais un peu écrit ce livre aussi pour manifester contre des choses qui me choquaient, notamment le fait que les enfants et leur mère, Agnès, n'aient pas de sépulture. C'est-à-dire qu'ils aient une sépulture, mais sans nom.
Oui.
Tombe anonyme. Et quand j'en parlais aux familles, ils disaient non, mais on ne veut pas que le cimetière à Noyers-sur-Serein devienne un lieu de pèlerinage.
Oui.
Et moi, je dis, attends, la moindre des choses, c'est qu'on vienne sur cette tombe, qu'on vienne prier, pleurer, leur rendre hommage. C'était la moindre des choses. Et là, enfin, il y a à peu près un mois et demi, on a mis leur nom, leur date et tout ça. Donc, je trouve que c'est une chose qu'ils méritaient amplement.
Oui, oui, on leur rend hommage.
Voilà.
On pense toujours.
Parce qu'il y a une autre partie de la famille. Plutôt du côté de Ligonnès, qui disent, donc la mère et la sœur de Xavier Christine, la petite sœur, disent que c'est pas les cœurs qu'on a retrouvés sous la terrasse. Donc, faut imaginer le niveau de déni et de psychologie déviante qui anime cette affaire.
Donc, ce qui explique qu'il n'y avait pas les noms au départ, c'est aussi peut-être
non,
pour ça.
Non, parce que
ça,
les noms, c'était du ressort de la famille Audanger, du côté d'Agnès, puisque Agnès et les quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ont été enterrés à Noyers-sur-Serein, qui est un peu le fief Audanger, où Agnès et les enfants allaient chaque été en vacances.
Oui.
Mais donc, c'était vraiment les deux choses, moi, qui me dérangeaient terriblement et qui me dérangent toujours. Hein. Le fait qu'on dénie leur mort, qu'on dise que ce n'est pas les corps sous la terrasse, ça, c'est inimaginable, d'autant que à l'époque, le procureur Xavier Roncin, vous imaginez bien, les enfants, ils avaient des dossiers scolaires, des dossiers dentaires.
Il n'y a aucun doute.
Bah oui, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il faut vraiment être...
Vous venez de faire tomber le micro sur la table, Xavier.
Voilà, bref.
Bruno.
C'est une... je ne sais pas ce qui se passe.
Voilà, on va continuer l'interview.
Ah oui,
il
n'y
a pas de souci. On a remis le micro sur la table. Vous allez pouvoir...
Attends, je vais le rapprocher.
On va pouvoir vous entendre correctement. Bruno, quand vous avez entendu dans les médias ce nom, Xavier Dupont de Ligonnès, peut-être meurtrier, vous y avez cru ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Bah, ça s'est passé en plusieurs temps. C'était, il faut rappeler, il y a 10 ans. En avril donc 2011, et moi j'avais le fils d'un copain qui faisait les études à Audentia, l'université à Nantes, et je lui avais dit, je lui avais filé le numéro des Ligonnès en disant fais-toi inviter à déjeuner ou à dîner, parce que c'est une famille très accueillante, et qu'il avait le même âge, il était entre Arthur et Thomas. Et c'est lui qui m'appelle, qui me dit, tu sais, ta famille, il m'appelle un soir, il me dit, c'est Bruno, tu sais, la famille Ligonnès. Je fais, ah oui, alors tu les as vus, ils sont sympas, et ça me dit, non, ils ont disparu. Je dis, quoi, ils ont disparu.
Ah, donc vous l'avez su avant
Oui, oui, enfin, ils ont disparu. Donc ça voulait... Ils pouvaient être partis en vacances aussi,
oui,
donc
oui.
Ça voulait rien dire non plus. Mais comme lui faisait partie d'une bande qui était aussi copain avec Arthur et Thomas, je me suis dit, ok, ils sont partis en vacances. Et puis Xavier, c'était un pigeon voyageur. Il devait partir, il avait dit qu'il partirait en Australie. Donc ça ne m'a pas étonné plus que ça. Mais il m'a rappelé après, il m'a dit, non, tu sais, ils ont disparu des réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand vous avez 4 adolescents, quand du jour au lendemain, vous n'allez plus à l'école, plus en cours, plus rien, et surtout plus de traces sur les réseaux sociaux, plus de, je ne sais pas s'il y avait Instagram à l'époque, je ne pense pas, mais plus de Facebook, bah, tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais moi, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Et une semaine après, il y a eu la fameuse lettre « Coucou tout le monde », qui était reçue par les membres de la famille et puis les gens de Nantes, parce qu'il fallait organiser un déménagement. Et c'est là, si vous voulez, où Xavier annonçait qu'ils avaient été exfiltrés par la DEA, qui était la brigade des stupes américaines, sous couvert comme quoi Xavier était agent des stupes, qu'il avait enquêté dans les milieux de la drogue. Et là, vraiment, franchement, quand vous êtes un peu au courant des... comment ça se passe réellement, vous dites c'est pas possible, quoi.
Oui, personne n'y a cru à cette lettre.
Personne n'y a cru à cette lettre. Et puis, elle était bourrée d'erreurs, bourrée de... en même temps, bourrée de mensonges, quoi. Et puis, donc là, on a commencé à s'inquiéter. Et surtout sur les trois frères d'Agnès. Agnès a trois frères, donc un qui connaît... enfin, ils connaissent quand même pas mal de monde. Et là, ils ont commencé à mettre la pression. Et puis, l'affaire, elle a commencé à remonter à Paris. Et moi, celui qui m'appelait, c'était Christophe Ondelatte, qu'on ne présente plus, hein, fait entrer l'accusé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, tout ça, quoi. Bref, c'était très bizarre. Et puis, il a fallu attendre encore 10 jours. Et puis, là, on a retrouvé les corps.
Oui.
Donc ça, c'était terrible.
Oui, mais on n'a pas retrouvé celui de Xavier.
Voilà. Et c'est vrai que, lorsqu'on confronte la lettre à la réalité, il y a tellement d'inepties, il y a tellement de mensonges. Il dit que les deux chiens ont été donnés, ce qui n'est pas vrai, que les voitures ont été vendues, ce n'est pas vrai, puisqu'on a retrouvé la voiture sur le parking de Roi-Brune-sur-Argent. Et puis que Xavier, pour moi, cette lettre, c'est celle qu'il accuse à 100%. Et en fait, en plus, c'est une grande erreur stratégique d'avoir écrit cette lettre. Parce que s'il n'avait pas écrit cette lettre, au lieu de chercher une personne, en l'occurrence Xavier de Ligonnès, on aurait cherché 6 personnes, on aurait cherché une famille, et voire même les deux chiens.
Oui.
Et une famille de 6 personnes avec 2 chiens, ça passe pas inaperçu. Là, le fait qu'on découvre à la fois les corps... Ah oui, puis il avait écrit sur cette lettre... la dernière phrase sur la lettre, c'est quand même terrible, parce qu'il écrit « Quant à tout le bordel sous la terrasse, là où étaient découverts tous les corps, c'est pas la peine de nettoyer... grosso modo, tout le bordel était là quand on est arrivé, quand on a loué la maison en 2003. » Évidemment, quand la capitaine...
C'est bizarre.
Voilà.
C'est bizarre.
Et quand la capitaine de police, parce que la veille de la découverte des corps, le procureur et le commissaire de police se retrouvent donc au bureau du procureur, et là ils se disent demain il y a la grande conférence de presse où les journalistes de Paris déboulaient, tout le monde voulait savoir. Et là le procureur, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire, on a une lettre comme quoi Xavier et sa famille sont exfiltrés aux États-Unis couverts par la DEA. Là, tout le monde aurait dit, franchement, ça tient pas debout, quoi. Et donc, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sauf que, donc, le soir, la veille, il voit le commissaire et là, il commence à analyser les cartes bleues de Xavier. Et là, il voit des choses quand même très inquiétantes. Il voit la chaux. La chaux, c'est pour faire disparaître les corps. Des sacs poubelles 100 litres. Donc, c'est des sacs poubelles 100 litres. Quand vous êtes un peu policier, vous savez à quoi ça sert. Ça sert à cacher des corps, des cordelettes, des cordages, des pêches, des pioches, enfin, mais que mais des mais trucs et,
Xavier,
du, et surtout du ciment.
Xavier, vous l'avez connu, c'était quand même un homme intelligent. On,
bah peut, oui,
on se demande
garçon.
Pourquoi est-ce qu'il laisse toutes ces traces.
Pas mon copain.
Pourquoi est-ce qu'il laisse toutes ces traces? Qu'est-ce qui s'est
curieux.
Passé
Parce qu'on peut, en psychologie, enfin, criminel, parler d'actes manqués, quoi. Alors. On savait qu'ils allaient quitter la maison parce qu'ils ne payaient plus les loyers. Et d'ailleurs, c'est ce que se dit le procureur et le commissaire de police. Se dit, s'il avait dû réparer un peu la maison, qui était quand même très abîmée, il aurait acheté de la peinture, il aurait acheté une échelle, enfin des pinceaux, enfin, tu vois, un truc pour un marteau, des clous, enfin un truc pour réparer une maison qui part un peu en miettes. Et là, le procureur et le commissaire se disent, enfin, ils voient déjà le ciment, c'est hyper inquiétant, parce que le ciment, vous dites, c'est pour cacher quelque chose, quoi, ou pour refaire la terrasse, quoi. Et bref, ils se disent. Si c'est pas pour la maison, c'est pour l'extérieur de la maison. Et donc, il convoque une capitaine de police le matin pour qu'elle envoie une équipe à, je sais pas, 8h30, 9h, avant la conférence de presse, en disant, écoutez, faites un tour dans la maison, mais axez vos recherches sur le jardin.
Oui.
Et là, donc, le matin, à 8h30, tu as la meilleure équipe de Nantes criminelle qui va sur les lieux, qui fait tout le jardin, qui n'est pas très grand, hein. Ils vont au fond du jardin, qui est un peu bizarre, il y a des trucs, etc. Bon, enfin, bref, il ne se passe rien. Là, elle se retourne, elle voit la maison, elle voit la terrasse. Et sous la terrasse, elle voit plein de bordel, des jouets d'enfants, des vieux vélos, une pompe de ski. Enfin, vraiment un bordel incroyable. Et elle se rapproche. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les deux gamelles des chiens qui sont nickel et dont l'une est coincée sous une planche d'un volet. Et là, elle se dit, c'est bizarre parce que tout le reste est un peu... C'est comme si on avait nettoyé, quoi. Tout est dégueulasse, sauf la gamelle des chiens. Elle se pose une deuxième question. Elle se dit, mais le chien, là, comment il fait pour attraper sa gamelle puisqu'elle est coincée sous une planche? Et là, si vous voulez, il y a l'instinct des flics. Hein. Elle bouge la planche, elle bouge la gamelle. Et puis, elle commence à creuser, quoi. Et là, elle tombe sur du ciment.
Oui.
Et le ciment, il est friable, donc il est frais.
Oui.
C'est-à-dire qu'à 48 heures près, il serait tombé sur une surface... vraiment dur, quoi. Et là, ils n'auraient pas poussé, ils auraient dit, bon, ben, c'est la terrasse, quoi. Et là, le ciment est frais, il continue à creuser, il tombe sur une couche, une espèce de drap, et puis il continue, le drap, une couette, ensuite un sac poubelle, quoi. Et là, quand ils ouvrent le sac poubelle, il y a une odeur de putréfaction, oui, qui se répand.
Donc, ils ont trouvé des corps de la famille.
Ils savent, mais ce qui est horrible, c'est que il cherche, il trouve les cinq corps plus les deux chiens, quoi.
Oui.
Et il manque Xavier.
Et alors, vous avez suivi vraiment de près cette enquête?
Ah oui,
ou vous
même,
avez ouais. Pour ce livre, pour l'écriture de ce livre, vous êtes revenu sur les différents acteurs pour les questionner? Comment vous avez procédé?
Bah oui, parce qu'il fallait que je commence par le début, parce que comment on raconte une histoire, comment puis moi j'aime Xavier, enfin c'est mon ami, quoi. Si demain il est arrêté, j'irai le voir en prison. Enfin, j'ai besoin en tant qu'ami, en tant que, on va dire, que chrétien, qu'humaniste, qu'écrivain, de comprendre. Et puis en plus, moi, je m'intéresse curieusement depuis que je suis enfant, je me suis toujours intéressé beaucoup aux affaires criminelles. Ça m'a toujours fasciné, enfin, mais pas fasciné dans le mauvais sens du terme, fasciné dans le sens pourquoi un homme, une femme, un jour franchit la frontière.
Oui.
La frontière, parfois, elle est très mince. Ça peut être le désespoir, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être plein de choses qui te poussent à passer de l'autre côté, quoi. Et donc, et moi, j'avais un souvenir quand même de Xavier très fort. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2008, donc c'était 4 ans avant les crimes. Et que moi, j'avais toujours revu un peu Xavier régulièrement. Mais je voulais raconter notre rencontre quand on avait 16 ans. Qu'on se rencontre à Versailles, qu'on est voisins de classe, qu'on habite dans la même rue, qu'on a le même parcours, on va dire, familial. Et donc ça, il fallait l'expliquer. Et puis il fallait donc retrouver toute la bande de l'époque, la bande de Versailles, tous nos copains de l'époque, et puis remonter comme ça les décennies, parler de l'époque il y a 20 ans quand j'ai eu mon accident de voiture, où il est venu me voir. Bon, il a mis le temps, mais j'ai compris après pourquoi il avait mis le temps. Et d'ailleurs, s'il met autant de temps avant de venir me voir, c'est aussi en rapport avec la secte de sa mère.
Oui, alors
tout
vous,
lié,
vous, vous tentez de comprendre pourquoi il a fait cet acte ignoble.
Mobile.
Vous tentez de le comprendre dans ce livre. Alors, vous évoquez son histoire difficile. Il a une histoire familiale difficile.
Enfin, difficile et pas si difficile que ça, franchement. Enfin,
si
on compare à ce qui se passe aujourd'hui, à des gens qui traversent les mers pour sauver leur vie et avoir une vie meilleure. Franchement, la vie de Xavier Ligonnès, à part d'avoir des parents officiellement séparés mais non divorcés, parce que chez les catholiques on divorçait pas, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et puis d'autre part, oui, je pense l'influence de la mère, mais il aimait vraiment sa mère, quoi. Mais sa mère, elle avait fondé une secte dans les années 60, enfin fin des années 60, début des années 70. Et elle avait élevé Xavier un peu comme un futur élu.
Oui.
C'est-à-dire que cette secte allait prendre le pouvoir, mais le pouvoir politique, religieux, enfin ça allait très très loin, quoi.
Et lui, il y croyait?
Oui, il y croyait parce que...
Donc il se voyait aussi comme un élu?
Oui, c'est-à-dire qu'il se voyait, et c'est pour ça que, si vous voulez, en menant l'enquête, j'ai compris toute la façon dont Xavier avait façonné sa psychologie. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il ferait un héritage colossal. Donc c'est pour ça qu'en fait, alors qu'il était brillant, hein, il a eu son bac, je pense, un an avant moi, parce que moi, je l'ai dû le rater 3 ou 4 fois, j'ai arrêté de compter. Bref, c'est un garçon brillant. Son père était brillant en mathématiques, en physique et tout ça. Et Xavier était appelé à faire des grandes études. Mais il était assez dilettante. Lui, ce qu'il voulait, c'est voyager. On voulait partir aux États-Unis. Et bref, là, je me suis dit, mais pourquoi il a autant foiré ses études? Il était à Assas, il était allé à l'école des cadres. Enfin, il a fait tout le parcours d'un jeune fils de bonne famille, mais d'un jeune fils de bonne famille assez glandeur. C'est-à-dire, c'est le parcours que j'aurais fait si je n'avais pas fait théâtre ou de cinéma. Et donc, et pourquoi il était aussi dilettante dans ses études ? Parce qu'il savait que tôt ou tard, l'héritage allait tomber.
Mais quel héritage ?
Et c'est ce que je raconte en 95, donc quelques mois avant mon accident, quand Agnès de Ligonnès, la mère de Xavier, la fondatrice de la SEC Philadelphia, annonce à tous les membres de la secte, parce qu'ils étaient, je crois, 30, 40, 50, qu'un événement extraordinaire va se produire. Et c'est-à-dire, il va y avoir, je peux pas te dire, c'est tellement irréel, puisqu'ils se réunissent un peu chacun dans leur coin, en Bretagne, à Versailles et tout ça. Et Xavier, lui, il est du côté de Saint-Maxime, donc avec Agnès, avec Emmanuel Teneur, le meilleur ami de Xavier, que je connaissais très bien, et puis deux, trois personnes, et ils se réunissent parce qu'il va se passer un truc. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir un raz-de-marée, si Bryce the Nice va arriver sur son surf et qu'il va engloutir la ville. Enfin pour moi, c'est carrément difficile à comprendre, tellement c'est fou, quoi. Mais celui qui m'a raconté toute cette soirée, c'était Emmanuel Teneur, qui était l'ami d'enfance de Xavier. Et bref, lui, c'est très très bien qu'il ne va rien se passer. Mais logiquement, il va y avoir, je ne sais pas quoi, un tremblement de terre. Et puis tout le monde va mourir, sauf les membres de Philadelphia, quoi. Et tout d'un coup, je ne sais pas, il y a un gouvernement mondial ou français ou, qui va se créer, ou européen, et Xavier sera l'élu, quoi.
Oui.
Emmanuel Teneur sera le vicaire général. Enfin bref, quoi, chacun.
Donc il ne s'est rien passé.
Il ne s'est rien passé. Alors, c'est un peu la honte, quoi. Et Emmanuel, il sait très bien que, voilà. Mais il ne dit rien, parce qu'il veut conserver l'estime de Xavier, et puis il voit que Xavier est quand même vachement ébranlé, quoi. Il va attendre une semaine, il va aller voir Xavier puisqu'ils étaient voisins, parce qu'il faut savoir que Emmanuel Teneur, qui était l'ami d'enfance de Xavier, ne l'a jamais quitté pendant 36 ans. Il l'a suivi dans tous ses déménagements, à tel point que Agnès, elle avait les boules, quoi. Et
oui,
puis en plus,
imagine, oui.
Emmanuel, bon, c'est vrai, il était un peu amoureux de Xavier, mais de façon, tout à fait platonique, quoi. Et bref, Emmanuel Teneur était le parrain de Xavier, le parrain de Thomas, et donc il vient le voir une semaine après, et il lui dit, mais Xavier, est-ce que je peux libérer ma parole ? Donc déjà la phrase, elle est incroyable. Et il dit, bien sûr, vas-y, parle, dis ce que t'as sur la conscience, quoi. Et là, Emmanuel Teneur dit, mais Xavier, tu pensais réellement qu'il allait se passer quelque chose, que le chanoine Ridolfi, qui était le chanoine de la secte, qui était mort 6 ans avant, qui était la caution religieuse de Philadelphia, allait ressusciter, enfin, tu le pensais réellement? Et là, Xavier, Emmanuel me dit, Xavier a le regard complètement perdu dans le vide, et dit, oui, je le pensais sincèrement.
Oui.
Waouh! Donc c'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme. Et donc c'est pour ça que Xavier, c'est un univers qui s'écroule. C'est-à-dire qu'il se dit, ça y est, ma mère, en fait, qui est la femme que j'aime le plus au monde, elle m'a menti. Mais en même temps, il se dit, mais comment j'étais assez con pour... Parce qu'il était quand même intelligent, quoi. Comment je peux être assez con pour avoir cru tous ces mensonges, quoi.
Et ça, c'est combien de temps avant le passage à l'acte, avant le...
On est en 95, donc on est 6 ans avant... Non, on est plus que ça, que 95-2005. Attends, 95, moi j'ai mon accident en 96. Donc, si tu vois, on va suivre un peu les années. Donc moi, quand j'ai mon accident, Xavier, il met un certain temps à venir me voir, parce qu'il était ébranlé par cette histoire, que ça l'a beaucoup troublé, et qu'il va avoir des problèmes d'argent, il va plus hériter, quoi.
Oui.
Alors heureusement qu'il fait des enfants, qu'il construit sa famille et qu'il travaille, Xavier, parce qu'il ne faut pas oublier, on l'a un peu traité dans les médias comme un mec qui avait des maîtresses partout, ce qui n'était pas vrai, hein. Il a eu une maîtresse sur la fin, mais je raconterai comment et pourquoi, mais ce n'était pas du tout, on va dire que...
Donc, il travaille, par contre il fait, c'est difficile, il fait souvent faillite, enfin, il a des problèmes.
Oui, mais
avec
ça, ça sera plus dans les années 2000.
Oui, voilà, on n'aura pas le temps de tout raconter, Bruno.
Globalement, mais tu peux m'arrêter, hein, parce que je suis un gros bavard, donc voilà. Donc moi, t'appuies sur le bouton,
voilà,
surtout
donc,
sur l'affaire.
Situation financière qui devient difficile à un moment donné.
Ouais.
Il y a une pression sur lui, sa mère met une pression sur lui et il n'obtient pas peut-être ce qu'il veut. Enfin, il n'est peut-être pas à la hauteur des espérances qu'on a mis sur lui.
Ouais, la pression, c'est plus du côté du père, parce que Xavier se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Mais il va assumer sa famille. Donc heureusement, Agnès a fait un héritage. Donc il y a quand même pas mal d'argent qui permet à la famille de vivre. Mais Xavier, il est comme tout père de famille, un peu, tu vois, un peu, enfin, tout père de famille, quoi. Il veut élever ses quatre enfants, il le fera, quoi.
Oui.
Il les fera travailler, il va vraiment les éduquer. Mais il sent que tout d'un coup, quand il arrive en 2003 à Nantes, il ne peut pas louer de maison. Il n'a pas de fiche de paie. Il a pas de... Et c'est Emmanuel qui va se porter garant.
Oui.
Donc, tu vois, là, on commence vraiment à rentrer. Et puis, il va ponctionner l'héritage d'Agnès. Et puis, à un moment, il n'y aura plus d'argent nulle part.
Ah oui. Oui,
plus les dettes à l'URSSAF, plus des boîtes qui montent, qui s'écroulent les unes après les autres. Et puis, plus les 50 000 euros qu'il va emprunter à une maîtresse, Catherine. Et là, qui ne pourra pas rembourser.
Oui, c'est ce que vous racontez dans votre livre L'ami impossible chez Gallimard. Donc on pourra découvrir toute cette histoire, on ne va pas raconter.
Oui.
Mais simplement, avant de conclure sur cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, pour vous, il est vivant aujourd'hui ?
Ah oui, moi je suis sûr. Enfin, je ne suis pas le seul. Alors évidemment, je n'ai pas de preuves concrètes, mais voilà, je suis profondément persuadé qu'il est vivant. Et je pense qu'il a des complicités, ça j'en suis sûr, quoi.
Ah oui. Oui, parce que oui.
Il y a deux choses. Je pense qu'il a des complicités parce que voilà, on fait partie d'un milieu où il y a des vieilles solidarités qui remontent à très loin. Bref, qu'il y a sûrement, je pense, du côté de Philadelphia, des gens qui ne sont pas innocents. Et puis deuxième chose, Xavier a tout à fait l'intelligence là où il se trouve pour créer son propre écosystème. Parce qu'on voit que des photos, il a l'air d'un bagnard, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charme, qui aimait les gens. Donc il est tout à fait capable de séduire une femme, de séduire une famille en Thaïlande, en Amérique du Sud.
De toute façon, il a pu se refaire faire le visage, il a pu changer.
Non, je pense pas, mais il a un physique qui peut facilement changer, se mettre la barbe. Et puis aujourd'hui, on est à l'époque du Covid, donc tu te mets un masque, des lunettes, une casquette.
Oui, puis à l'étranger, on ne connaît pas Xavier Dupont de Ligonnès.
Je te dis, il y a deux ans, moi j'ai été à Sydney pour les Invictus Games, les Jeux paralympiques militaires. Personne, tout le monde s'en fout de personne
Bien
ne recherche Xavier Ligonnès.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
À Sydney, on s'en fout, quoi.
Bruno Vestavenras, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui?
Bah de la, comment dire, de la, une forme de pitié, parce que je me dis qu'il doit quand même beaucoup souffrir, mais j'oublie pas non plus qu'il a tué toute sa famille et que pour moi il est important qu'il se rende ou qu'on l'attrape là où il est et que justice soit rendue.
Oui. Oui, donc on retrouve toute cette histoire, toute l'enquête que vous avez menée dans L'ami impossible aux éditions Gallimard, mais vous avez sorti d'autres livres, vous avez une vie en dehors de cet ami impossible. Oriane ?
On vous connaît. Enfin, avant tout, on vous découvre au grand public quand vous débutez donc au cinéma sous l'œil de François Truffaut. Qu'est-ce que ça fait de... Enfin, c'est quand même une entrée un petit peu dans la cour des grands qui est assez rapide. Qu'est-ce que ça fait de commencer au cinéma comme ça, comme jeune acteur
ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, donc on est en 75, Truffaut est pas du tout. Enfin, moi je le connais pas, quoi. Quand j'en parle à mon père il pense que c'est les graines Truffaut, tu sais, à parler d'eux, le mec qui vend des plantes, quoi. Donc c'est à dire que nous à l'époque, c'est 75, c'est les films catastrophes américains, La Tour Infernale, Le Poséidon, c'est les films de Belmondo, de Delon. Enfin voilà, moi je me remets dans la peau d'un petit garçon de 14 ans. Truffaut, il a fait un an avant La Nuit Américaine pour lequel il y a eu l'Oscar, mais c'est plutôt un télo. C'est, si tu veux, c'est après que je vais le découvrir. Donc quand je vais le voir, j'ai vraiment les mains dans les poches, quoi. Les mains dans les poches. Ma prof de théâtre, parce que je fais déjà du théâtre, ma prof de théâtre m'a dit: Bruno, Truffaut, tu verras et tout ça. Mais moi j'imprime pas du tout, parce que bon, d'abord je me dis bon, c'est cool, j'ai passé un casting, donc je vais à Paris, voilà, je suis super content. Mais ce qui est important quand je rencontre Truffaut, c'est que c'est quelqu'un qui me traite pas comme un enfant. Il me parle tout de suite avec beaucoup de sympathie. Et que moi, je souffrais entre les parents, les profs, les prêtres, d'être toujours un peu infantilisé. Et que j'avais soif qu'on me prenne au sérieux. Et j'estimais que j'étais déjà comédien, que je faisais déjà du théâtre. Et Truffaut, il va être formidable pour ça. Il va tout de suite me mettre à l'aise. Et puis moi, je te dis, je suis finger in the nose, les mains dans les poches. Je crois que je le tutoie tout de suite.
Okay.
Et puis à un moment, il me dit... et puis je suis dans son bureau, je vois les livres, je vois son Oscar, je vois plein de choses que je trouve... tu vois, je suis content parce que tout d'un coup, je trouve que ça, je vois les affiches de films avec Brigitte Bardot, puis il aimait les belles femmes, Truffaut. Donc tout de suite, je me sens hyper à l'aise, un peu comme quelqu'un qui trouve enfin son mentor. Et puis surtout, il va m'apprendre une chose, il y a un Paris match avec la photo de James Dean. Moi, je ne sais même pas qui c'est James Dean. Mais je vois ce mec, je trouve qu'il a un côté un peu rock'n'roll. Et quand Truffaut revient, je fais, mais François, c'est qui ce garçon? Il me fait, mais tu ne connais pas James Dean? Et puis là, il me dit, il y a trois films en ce moment que tu peux voir à Paris. Il y a L'Est d'Éden, La Fureur de Vivre. Et moi, tout d'un coup, je me dis, waouh! Et puis il me dit, en plus, le mec, il est mort en 55 à 24 ans, quoi. Donc, tu vois, tout de suite, il y a une cohérence. Le cinéma, James Dean. Et puis je passe, voilà. Et puis je passe les castings. Donc, était là, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Lina. Hein. Lina, il y a toujours mon casting. Et j'adore parce que c'est. Pas par narcissisme, mais parce que je me dis, je me vois 14 ans, je me vois interviewé par Truffaut, et je vois que je suis bien dans mes pompes, quoi. Parce que, comme le film allait s'appeler L'argent de poche, Truffaut me dit alors, Bruno, qu'est-ce que tu fais avec ton argent de poche? Je suis là avec ma petite voix, parce que j'ai pas encore muet. Je dis, ben, je m'achète de ma carte orange. Mais je vois que je suis bien dans mes pompes, quoi, que je suis cool. Donc je me dis, bon, déjà, j'étais un gamin assez équilibré. Et puis, sauf que j'en avais pas parlé à mes parents. Et que j'en parle à ma prof, elle m'a fait, mais Bruno, tu peux pas, t'es mineur. Voilà. Alors j'en parle à ma mère. Et ma mère, elle était assez artiste, elle était pianiste de jazz, donc elle m'accompagne. Donc deuxième rendez-vous avec Truffaut, parce que le premier s'était plutôt bien passé, et le deuxième rendez-vous, là je découvre une chose incroyable, c'est que Truffaut c'est un sacré séducteur. Et je vois ma mère qui est comme un peu, qui tombe sous son chat, j'étais là, je dis maman, tiens-toi quoi, franchement, j'avais un peu, tu vois, je voyais qu'elle était sous son charme quoi, et puis donc elle m'attend dans le couloir, là je repasse encore le deuxième casting, toujours avec la tirade de l'avare, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, enfin, je savais par cœur. Sauf que là, Truffaut me dit, alors Bruno, c'est la même tirade, mais je voudrais que tu fasses comme si t'oubliais, tu la savais pas par cœur. Pourquoi? Bah parce que t'as envie d'aller jouer au foot, donc t'en as rien à foutre, quoi. Vas-y, fais-moi le cancre. Alors moi, je vois le cancre, c'était carrément... C'était même pas un rôle de composition. Hein. Donc, je fais là au voleur, à l'assassin, je me trompe et tout ça. Bref. Et quand je repars après avec ma mère à Versailles, ma mère me dit, je vois qu'elle était un peu embêtée, elle me dit, Bruno, si tu fais pas le film, sois pas déçu et tout ça. Et puis à un moment, elle me dit, oh, mais je comprends pas, ce texte, tu le savais par cœur, là. Je t'entendais, t'étais là, t'annonnais, nanani, nanana. Mais enfin, c'est pas possible, tu l'as travaillé, ce texte. Puis moi, j'allais dire, mais maman, c'est le cinéma. Tu vois, j'allais... Et puis à un moment, je me dis, ben non, c'est un secret. Je suis dans le show business, quoi. C'est un secret entre Truffaut et moi. J'ai pas besoin de lui expliquer, je m'en fous, quoi. Je sais que j'ai réussi un bon casting. Et puis voilà, puis un mois après, il m'a dit, Bruno, tu fais le film, quoi.
Wow.
Et ça, je le raconte dans un roman que j'ai failli faire au cinéma, avec produit par Pierre-Ange Le Pogam, qui était l'associé de Besson. Mais je le désespère de faire un jour, parce que c'est un film que j'adore. C'est un été 75. C'est un petit garçon inconnu qui rencontre un metteur en scène célèbre. Et je raconte tout le tournage. Je raconte Versailles, je raconte les castings. Enfin, je raconte toute cette histoire et que j'adore. Parce qu'en plus, c'est l'été 75 avec John Lennon, avec Nino Ferrer, avec le Sud, avec l'été indien, avec une bande de musique, mais qui est extraordinaire. Et moi, je raconte mon été 75 où je tombe amoureux de la fille de François Truffaut, ou un tournage où la moyenne d'âge est 27 ans, c'est quand même... c'était vraiment un souvenir... Bah, c'est un souvenir inoubliable, quoi.
Ouais. C'est le premier souvenir et le plus fort, le premier souvenir du cinéma.
Oui, parce que c'est le premier été où je suis loin de mes parents et où je comprends que je suis fait pour ce métier, que j'adore être sur un plateau de tournage, qu'il va se passer plein d'aventures, des histoires, des coucheries, des tromperies.
Racontez-nous un petit peu les coucheries, tout ça, c'est bah, vrai.
C'était le petit garçon qui observait ça, mais j'étais chaud déjà, donc je voyais bien ce qui se passait, qu'il y avait des séductions, que le soir ils se retrouvaient tous en boîte de nuit. Alors nous, moi j'étais avec les petits, quoi. Moi j'avais une nourrice, une vieille dame qui s'occupait de nous, mais moi j'en pouvais plus, quoi. J'ai presque volé une mobylette pour aller en boîte de nuit.
Non, mais ça, c'est tellement Truffaut,
hein,
en plus.
Bah oui, c'était,
sans le savoir, t'étais vraiment un personnage.
Et à un moment j'écris une lettre, donc, qui était adressée à mes parents, mais qui était censée être écrite par le producteur, qui m'autorisait, puisque j'étais mineur, à aller en boîte de nuit. Et parce que les filles de Truffaut, Laura et Val, elles avaient 16 et 14 ans.
Oui.
Et elles, c'était les reines, quoi. Elles sortaient tous les soirs en boîte. Puis à l'époque, tu avais les boîtes de nuit, tu dansais le slow, il y avait le disco commençait à peine. Enfin, c'était énorme, les boîtes de nuit à l'époque. Puis nous, on est dans un petit village, enfin, on est à Thiers, qui est la ville de la coutellerie. Et donc, et puis une équipe de tournage, et une petite famille, quoi. Mais ils étaient tout chauds, quoi. Les filles étaient plutôt jolies. Et puis, sur un tournage, il y avait toutes les femmes de la région qui venaient assister au tournage. Et donc, elle se faisait repérer. T'as des femmes qui s'ennuyaient, t'as des femmes qui trompaient leur mari. Enfin, c'était quand même... Et moi, je voyais tout ça. Et donc, je présente ma lettre au producteur en disant, voilà, ce serait bien que vous autres... enfin, disiez ça à mes parents et tout ça. Évidemment, le producteur fait, mais Bruno, tu sais, t'es mineur. Et donc, il a raconté ça à Truffaut, ça l'a fait rigoler. Et Truffaut, il a rajouté une scène qui n'était pas dans le scénario, où je vais voir des prostituées. Enfin, je vais dans un bar à filles. Sauf que moi, c'était pas du tout ma culture. Quoi. À Mersa, il y avait pas des bars à filles. Et donc, je comprenais pas trop ce que je faisais là, quoi. Oui. Parce que c'était très bizarre de me retrouver entre... Alors, en plus, là, celle qui jouait la prostituée, c'était la petite amie du premier assistant. Et elle s'était barrée pendant le tournage avec le décorateur.
Voilà.
là, le premier assistant qui s'appelait Alain, que j'aimais beaucoup, que j'embrasse, Alain Maline, me dit, Bruno, est-ce que tu peux aller voir elle est dans l'appartement. Enfin, tu vois, on vivait un film de Truffaut dans un film de Truffaut, quoi. C'était incroyable, ouais. Incroyable.
Ça, c'était quelle année?
75.
Et donc, vous avez fait carrière dans le cinéma?
Bah,
vous avez...
Après, j'ai continué le théâtre, j'étais à l'école de la Rue Blanche. Et puis surtout, 2 ans après, j'ai tourné dans un film, c'est le début d'ailleurs de L'Ami Impossible, c'est le tournage de L'Hôtel de la Plage, avec La Gaumont, avec Anne Parillaud, avec Guy Marchand, avec Secaldi, avec Myriam Boyer, qui joue en ce moment au théâtre, et enfin, avec toute une bande d'acteurs incroyables.
Oui.
Et en plus, c'est un tournage où il y avait beaucoup d'argent, enfin quand je dis beaucoup d'argent, c'était une grande prod. Il y avait Mortuman qui faisait la musique avec Hôtel de la Plage, avec Un été de porcelaine. En plus, Elvis Presley meurt le 16 août 77 pendant le tournage, et Mortuman qui faisait la musique du film avait écrit des chansons, des tubes avec Doc Pomus pour Elvis Presley. Donc il nous fait une soirée musique en hommage à Elvis Presley. Non mais c'était énorme, quoi. Et en plus, moi, je commençais à faire de la musique en tant que professionnel. Et enfin, tu vois, toute cette jeunesse qui se met en route par rapport à un métier que j'avais choisi, pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Ce qui fait que très vite, je vais quitter mes parents, je vais m'installer à Paris.
Oui, oui, c'est la belle vie. Et alors, en 1996, vous avez un très, très grave accident. Et là, vous perdez l'usage de vos jambes.
Bah, je perds l'usage des mains parce que c'est une tétraplégique incomplète. Et donc, ça va être 18 mois à Garches. Et là, c'est quand même c'est une chose auquel peu d'hommes ou peu de femmes sont confrontés dans une vie. C'est-à-dire que vous remettez les compteurs à zéro, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui va m'aimer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, heureusement que... Enfin, heureusement, oui et non. Heureusement que j'ai des visites tout le temps. Que j'ai une famille, j'ai plein de copains, enfin, et même j'ai plein de gens qui se mobilisent pour moi, quoi, à qui j'ai rien demandé. Et donc là, je me rends compte que je suis aimé, que j'ai beaucoup d'amis.
Les gens ne vous tournent pas le dos, les gens restent.
Non, je pense que c'est tombé au bon moment. Hein. Je pense que c'est tombé au moment où mes copains, mes amis étaient encore jeunes, pas mariés, tout ça, tu vois. Mais surtout que c'est un grand mystère, hein. je serais incapable... Oui, tu vois, ouais, Oriane, vas-y, je vais pas te bouffer toutes tes questions, Oriane, tu vois.
Ah non, mais t'inquiète, moi, tant que tu peux développer sur ton histoire, mais continue.
Non, donc que... voilà, et quand je quitte l'hôpital, enfin, c'est ça, c'est la chose la plus difficile, c'est quand tu quittes l'hôpital. Parce que le temps de l'hôpital, t'es copain avec les infirmières, t'as des visites, enfin, t'es protégé. Et t'es dans un nouvel univers, mais qui te correspond, puisque tu découvres voilà, ce qui va se passer un peu, voilà. La chose la plus difficile, c'est quand tu quittes l'hôpital. Quand tu quittes l'hôpital et que tu te retrouves...
Mais alors, vous quittez l'hôpital, est-ce que vous pouvez reprendre votre activité ancienne?
Mais non, t'es mort. Enfin, je veux dire, en fauteuil, puis en plus, moi, j'apprends comment me débrouiller en fauteuil. Alors, heureusement que je me fais aider, heureusement que tout de suite, je comprends qu'il faut que j'ai des garçons qui bossent pour moi, des assistants, des auxiliaires. C'est toute une vie à remettre en place, hein, c'est énorme. Et puis, alors, je vais retravailler. Alors, comme j'écris... Déjà que j'ai pris des cours de scénario, très vite je vais retravailler comme scénariste sur Un gars et une fille, sur la série Un gars et une fille, sur pas mal de choses. Mais surtout, je me dis... Enfin, tu sais, tu te retrouves devant un espèce de désert existentiel, quoi. Parce que t'es ni triste, ni gay, mais t'as pas envie de grand-chose, en fait. Tu vis au jour le jour, quoi. T'as pas de grande joie, t'as parfois quelques souffrances, c'est-à-dire quelques moments où tu sais plus où tu vas, quoi. Mais pour moi, ça dure jamais très longtemps. J'ai toujours des gens, des visites, quelque chose qui se passe dans ma vie qui me met la tête hors de l'eau. Mais t'es quand même tout seul dans ton froc, quoi. Ouais. Où je vais, on verra bien.
Oui, voilà. Parce que le...
Et ça m'était jamais arrivé avant. Quoi.
Jouer, c'est difficile de trouver des rôles avec un fauteuil.
Ah ouais.
C'est...
Tu vois que... Même avec... Regarde, même la grande série, là, je sais pas comment il s'appelle, là, sur France Télévisions, là. Le mec qui joue en fauteuil, il est même pas paraplégique. Quoi.
Ah.
Alors qu'ils auraient dû prendre un acteur en fauteuil, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Donc, voilà. Donc tout ça se met... Et puis finalement... Au bout de 2-3 ans, où là ma vie elle se met un peu en route, je vais commencer à écrire les premières lignes de Cavalcade. Voilà.
Qui raconte votre histoire.
Qui raconte de façon romanesque, parce que pour moi c'était important d'être dans la dimension du roman, de l'autofiction, c'est-à-dire d'écrire un livre. Parce que c'est facile de faire un document, vous racontez votre vie à un journaliste, et ça c'est du document. Un roman, il faut qu'il y ait un souffle, il faut que... qu'on raconte une histoire qui est, voilà, c'est pour ça que j'invente quelqu'un qui me ressemble comme un frère que j'appelle Poisson-Chat, et puis voilà, et puis que je raconte de façon très écrite, avec un rythme, avec un style.
Oui, alors on parle de plus en plus d'inclusion partout, d'inclure les personnes en situation de handicap, par exemple dans les médias, dans les films, dans les séries. Qu'est-ce que vous en pensez, on en est où aujourd'hui?
Je pense que là, je suis en train de... je pense que je ne serai pas tout seul, mais je pense qu'il est temps de faire une grande lettre ouverte à tous les candidats. Hein. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de... Ils parlent tous de Zemmour, enfin, ils sont tous obsédés par ça, et personne ne parle des 10, 11 millions de personnes en situation de handicap. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Oui.
C'est-à-dire prendre tous les... Enfin, qu'ils soient... qu'il soit dans des écoles le plus vite, enfin tu vois, qu'il soit accessible
au plus cours. D'accessibilité pour les personnes handicapées,
voilà,
c'est
et surtout pour les enfants, enfin, parce que si tu veux la différence, le problème de l'handicap en France, on l'a moins dans les pays anglo-saxons, en Suède, en Norvège, etc. Pourquoi? Parce que les enfants en situation de handicap, ils sont intégrés tout de suite, donc on est habitué à avoir un petit aveugle, un enfant qui n'entend pas ou qui ne marche pas, enfin peu importe quoi. Et donc plus vite, plus jeune, vous mettez les enfants en situation de handicap avec ceux qui ne le sont pas, plus vite vous comprenez que, voilà, que finalement, quand tout le monde cède, c'est sans problème. Quoi.
Oui.
Donc il y a ça, il y a la situation d'accessibilité. À Paris, bon, moi j'habite Paris, mais je pense que les grandes villes, il y a un vrai problème d'accessibilité. Enfin, en
mais
plus,
bah,
problème
Paris,
de logement, problème de travail.
Toutes les stations de métro ne sont pas accessibles, la majorité ne le sont pas.
Non, puis là j'ai amené cette feuille-là parce que depuis la rentrée... Bon, moi j'ai une voiture parce que pour moi c'est très important que
une
je sois
adaptée.
Autonome, adaptée, et que je me prenais des amendes de 75 euros. T'es au courant de ça, non?
Non.
Je lui ai dit, bah attends, ils sont cons ou quoi? D'abord, je me gare pas sur les places de livraison, je me gare sur des places normales.
Oui.
C'était à la mairie de Paris en fait. Mmh. Et je mets mon sigle handicap, donc je paye pas les places.
Oui.
Et en fait, c'était le, si tu veux, la mairie de Paris, et les mecs ils restent en bagnole quoi. Et donc maintenant ils ont des ordinateurs et puis ils voient ceux qui ont leur ticket et ceux qui n'ont pas leur ticket. Donc forcément moi j'avais pas de ticket. Donc j'ai fait des courriers et finalement on m'a envoyé cette lettre de la mairie de Paris où il faut que je sois référencé en tant que handistat et ticket handi. C'est-à-dire que maintenant je rentre mon nom dans le logiciel avec le fait que je sois handicapé, machin chouette, enfin tout le tintouin quoi. Et maintenant je peux me garer où je veux, mais ils ont mis 3 mois. Tu penses pas qu'ils auraient pu me prévenir 6 mois avant? Donc ils m'ont fait faire des courriers, des machins, mais il était hors de question que je paye 75 euros.
Et
tu
vous
vois.
N'êtes pas le seul dans ce cas.
Et je suis pas le seul dans ce cas. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Bruno, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben non, il faut que tu fasses un courrier à la mairie de Paris, demande de référencement, avec toutes les pièces justificatives. Enfin franchement quoi.
Voilà.
Tu vois, c'est pas
donc,
facile.
Donc là,
quoi.
Vous êtes venu en voiture, vous avez pu vous garer.
Ouais, j'ai trouvé une place.
Voilà, et vous n'aurez pas de PV.
Ben j'espère.
On espère aussi pour vous, Bruno de Stabenrath. Vous êtes scénariste. Est-ce que, et écrivain également, vous écrivez des fictions. Est-ce que vous essayez d'intégrer des personnes en situation de handicap? Est-ce que ça passe?
Ça passerait. Si, c'est passé quand on a adapté Cavalcade au cinéma. Hein. On a tourné à Garges, on a fait tourner pas mal de gens en fauteuil. Mais moi, je pense que c'est, tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est que ce serait moi qui suis en situation de handicap de penser, mais en même temps ta question elle est pertinente, pourquoi? Parce que moi je vais te dire, à Paris je connais la moitié des producteurs et des réalisateurs, je connais des noms prestigieux qui sont des amis.
Oui.
Et aucun de ceux-là ont pensé à me faire tourner, tu te rends compte hein? Personne se dit mais Bruno il est comédien, on va le faire tourner.
On peut adapter un rôle.
Et là je cite pas des noms parce que franchement je voudrais pas blesser des copains, mais ça me franchement il y a des moments ça me met les boules quoi.
Oui.
Parce que c'est des gens connus, des gens qui tournent beaucoup, des gens qui me mettent. Alors moi si tu veux je peux jouer un chauffeur de taxi. Je suis assis,
oui.
Je peux jouer un présentateur de journal, je peux jouer un amant dans un lit, je peux jouer un invité dans un canapé, tu vois.
Ou
je peux
jouer même jouer avec un fauteuil,
non,
on
mais
peut
bien sûr.
Adapter un rôle.
Donc tu vois, c'est à nous de se mettre, de tirer toujours, d'aller gémir en disant « mais fais-moi tourner ». Et pas un n'aurait l'idée, alors qu'ils me connaissent, qu'ils viennent dîner chez moi, tu vois, franchement, ça me débecte.
Oui.
Tu vois, ça me met en colère. Bon, voilà. Mais
et donc du coup, là, en ce moment, enfin, vous ne tournez plus?
Bah non, là j'ai tourné, la dernière fois que j'ai tourné c'est la série Engrenage.
Oui, mais c'est dommage en plus parce que... Enfin, c'est la...
Ouais, parce que je suis très bon comédien.
On confirme. Ça, on ira voir le film de Truffaut pour confirmer. Ouais. Mais non, mais surtout que en plus on a le... C'est dommage qu'en fait ce soit perçu comme une faiblesse actuellement.
Bien sûr.
Parce que c'est juste une question de point de vue en fait, et quand le point de vue aura changé sur cette question qui n'est pas forcément une faiblesse du tout... En fait, ce sera normalisé. Et puis, on voit bien qu'il y a des très bons acteurs qui, d'ailleurs, brillent souvent dans des rôles où, c'est, justement, ce sont des rôles un petit peu, a priori, qu'on considère, enfin, que la société considère comme ingrats. Alors qu'en fait, ce sont les plus beaux rôles la plupart du temps. Enfin, quand on pense au rôle de DiCaprio dans What's Eating Gilbert Grape, où il est absolument bouleversant, je pense que c'est l'un de ses plus beaux rôles. Et bah, c'est pas du tout un rôle de mec qui est PDG à la tête d'une grande boîte, quoi. C'est pas du tout ça.
Oui.
Donc, c'est justement cette faiblesse des gens qui, de toute façon, dans l'art ou dans le cinéma en général, est hyper intéressante. Et qu'on va au cinéma pour ça, c'est pour voir ce genre de performance plus que. Disons des gens.
Mais si tu veux, ce qui est énervant, c'est qu'on est obligé un peu de se révolter. C'est-à-dire, alors que, je ne sais pas, dans les productions, il devrait toujours avoir un petit. En disant, tiens, si on donnait ce rôle-là à un tel, tu vois, ça devrait être naturel. Ça vient toujours de nous, on va dire, le petit peuple en fauteuil, de venir réclamer. Comme là, les élections, tu vois. Est-ce que t'as vu dans le programme. Des gens de la droite ou des gens de la gauche ou les écolos, dire voilà, et on voudrait faire quelque chose, un amendement spécial ou une loi spéciale concernant l'handicap, qu'il n'y ait plus à Paris des projets immobiliers, enfin plutôt des restaurants ou des boutiques, il y a toujours des marches. C'est hallucinant de se dire que putain, on est en 2021, bientôt, voilà, et qu'il ne se passe rien, quoi, que je suis obligé d'aller réclamer des trucs en silicone pour pouvoir passer une marche, enfin. C'est quand même pénible que ça soit toujours nous.
Et qui depuis 1996, que vous êtes en fauteuil, vous voyez une évolution positive quand même?
Je vois une évolution sur le matériel, ça oui. C'est formidable. Donc, là, ce fauteuil, le wheel, là, qui est formidable, donc ça, voilà, ça c'est bien. Sur les soins d'une manière générale, sur le traitement des douleurs.
Sur l'accessibilité.
Accessibilité, il y a encore du retard, quoi.
Oui.
Parce qu'on tombe toujours sur des gens charmants. Alors, il y a des gens de bonne volonté, mais ça prend toujours des heures, quoi. Tu vois, le mec, il t'accueille à l'entrée d'un building, il va se faire passer par les caves, les machins et tout ça, parce qu'il n'est pas au courant, parce qu'il n'y a pas de réunion de sécurité. En disant, ah, pour les gens... Tu vois, chaque année, moi, je vais à Roland-Garros, et il y a une grande réunion, on est une trentaine, sur l'accessibilité tout nouveau. Et même sur l'accessibilité des gens qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques. Donc, bravo. Voilà.
Mais ce sera
paix aux hommes de bonne volonté.
Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno de Stabenrath.
Merci.
On rappelle le titre de votre livre, L'ami impossible, aux éditions Gallimard. Merci Auriane Martineau du magazine Épatant d'avoir aussi co-animé cette
Carole.
Émission. Merci à vous tous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.